Mystère, mystérieux. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mystère.
Bonjour à tous, bienvenue avec nous ce soir pour le deuxième épisode du podcast des Mystères mystérieux. Vous êtes ce soir en compagnie de Sandy.
Bonsoir.
Et Juliette.
Bonsoir.
Qui, contrairement au premier épisode, est avec nous pour de vrai ce coup-ci.
Dans la même pièce.
Dans la même pièce. Comme la première fois, nous avons toutes les trois préparé chacune une petite chronique, un petit mystère. Et on ne se l'est pas dit à l'avance. J'aimerais quand même faire une petite exception. Est-ce qu'on pourrait avoir un mot-clé par mystère pour nos auditeurs, pour qu'ils sachent à quoi s'attendre un petit peu?
Mon mot-clé, ça va être unicellulaire.
Ok. Ouais, Sandy.
Mon mot-clé, ça va être paillettes.
Moi, mon mot-clé, je vais dire danse folle.
Danse folle.
Ouais. Qu'est-ce qui veut commencer ce soir, les filles?
Si je devais vraiment choisir, je dirais toi.
La dernière commence cette fois-ci.
Oh là là, c'est vénère. Ok, c'est vénère. Eh bien, c'est parti. Alors, ce soir, je vous embarque 500 ans en arrière, à Strasbourg, mi-juillet.
Oula, tu nous poses le contexte, là.
Ouais. Et en fait, une nana dans la rue se met à danser.
Tu vas nous parler des épidémies de danse.
Oui. Tu connaissais déjà?
Oui.
Ouais. Ah mince.
Moi aussi, je connais.
Ah mince. Bon, c'est pas grave.
C'est bouffu. Ça fait toujours...
Petite piqûre de rappel. Ouais.
Est-ce que vous connaissez tous les détails?
Alors ouais, je vais essayer de rentrer un petit peu dans les détails, mais c'est vrai que c'est une histoire qui a été transmise depuis 500 ans, sur laquelle des gens ont écrit. Il y a des bouquins qui sont sortis récemment aussi dessus encore. Et il y a pas plusieurs versions, mais il y a des détails qui sont perdus, d'autres qui ont été inventés, d'autres qui ont été tournés un petit peu à l'avantage de certains courants de pensée. Donc le tout début, ce dont on est sûr, c'est qu'un jour, en plein milieu de Strasbourg, une nana s'est mise à danser. À partir de là, elle a été rapidement rejointe par d'autres danseurs. Il y a eu des témoignages postérieurs à cet événement qui disent que rapidement, c'est environ 400 personnes qui se sont mises à danser dans les rues de Strasbourg, sans raison, mystérieusement, et jusqu'à mourir d'épuisement. Genre les mecs, ils ont dansé, ils sont morts de fatigue. Voilà. C'est un peu fou. Et à l'époque, il n'y avait pas d'explication sur ce qu'était cette danse mystérieuse. Et ils pensaient que c'était une maladie, en fait, due à la malédiction de Dieu. Que c'était un châtiment divin. Le seul moyen de soigner cette danse folle, pour que les gens arrêtent de danser, c'était de les encourager à danser encore plus pour qu'ils transpirent et que ça les guérisse.
Et il n'y a pas eu d'élément déclenchant? Par exemple, la première qui s'est mise à danser, il n'y avait pas... Ouais, d'un coup, il n'y a pas eu...
Non. D'accord. Dans les écrits, en tout cas, non. Il n'y a pas eu d'élément noté. Donc du coup, bon, ils se sont dit, bah, on va les laisser danser, les pauvres bougres. Donc ils ont fait des estrades en bois dans les rues de Strasbourg. Mmh. Ils les ont laissés danser. Ça ne marchait pas. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Donc, comme ce que je vous expliquais, c'est sûrement dû à un châtiment divin, ils ont envoyé les gens qui dansaient en pèlerinage à la chapelle Saint-Guy, à Saverne, pour les soigner. Ils ont fait une statue de cire en l'honneur de Saint-Guy.
Une statue de cire.
Statue de cire.
Déjà, le musée Grévin.
Pour s'en attirer les bonnes grâces. Et du coup, à l'époque, on appelait ça la danse de Saint-Guy. Voilà, c'était une maladie, la danse de Saint-Guy.
Et pourquoi Saint-Guy?
Parce que c'était le saint en rapport avec ce mal. Et plus tard, les personnes qui ont écrit sur cet événement parlent de chorémanie, manie dansante ou épidémie de danse. Donc on est en 1518. C'est un événement qui n'est pas un cas isolé. Il y a déjà eu d'autres épidémies de danse observées entre le 14e et le 12e siècle. La dernière connue à ce jour, ce serait en 1863 à Madagascar.
D'accord, ah ouais, je savais
ça,
pas.
Ça, par contre, je savais pas qu'il y en avait eu sur d'autres continents.
À l'époque, on ne savait pas expliquer ce phénomène, mais je crois que c'est entre le 14e et le 18e siècle, en fait, et surtout en Europe, en France et en Allemagne, enfin vraiment dans cette région-là d'Europe.
c'est rigolo que ce soit sur une zone géographique si, si
ouais. petite. Je sais pas, peut-être que...
Est-ce que c'est pas les peuples les plus fous.
Est-ce que c'est pas la bière. Je sais pas, j'hésite. Donc voilà, à l'époque, on pensait que c'était vraiment dû à
une malédiction.
Quelque chose de divin, ouais. La quelque chose en rapport avec Dieu, une punition en fait de Dieu. C'est une histoire donc, qui a été relayée par différentes personnes au fil du temps et pendant 500 ans. Et comme ce que je vous disais tout à l'heure, ça a été assez déformé. Par exemple, Paracelse, qui est un médecin, philosophe et alchimiste, a écrit quelques années plus tard sur cette épidémie de danse. D'ailleurs, c'est lui qui a parlé en premier de corémanie. Et en fait, lui, il n'était pas sur place pour constater les choses. Et pourtant, il s'est permis d'écrire de relater les faits, mais avec beaucoup d'incohérences, en extrapolant un petit peu. Il dit que la première femme qui s'est mise à danser, c'est Madame Trophéa. Et en fait, il n'y a pas de raison que ce soit cette nana-là. Enfin, il n'y a pas de trace, en fait.
Est-ce que tu veux dire que c'était un peu le début des fake news?
Oui, je pense, ouais. Ouais, ouais. On peut s'aventurer sur ce terrain.
Début des fake news. On peut aussi extrapoler de notre côté.
Il y a d'autres sources bien postérieures à cet événement qui expliquent qu'il y avait parfois jusqu'à 500 danseurs. Et justement, sur les articles du Monde, par exemple, ou des médias qui nous sont contemporains, ils parlent 400, 500 danseurs morts d'épuisement. Alors que, en fait, selon un écrit de l'époque du greffier de la ville de Strasbourg, qui a été vraiment quelque chose qui a été écrit au même moment, le mec dit qu'il y a seulement une cinquantaine de personnes qui ont dansé. Et d'autant plus voilà, qu'aucun écrit de l'époque n'atteste aussi du fait que des gens soient décédés.
Ah d'accord.
À l'époque, ils n'ont pas constaté que des gens étaient morts de ça.
Ok, c'est juste...
Ah ouais, c'est un peu une légende, en fait.
Ouais.
On sait pas trop.
En fait, t'as vraiment cette histoire qui dit, ouais, à l'époque, 500 personnes dans les rues de Strasbourg qui mouraient, des enfants, des femmes.
Ouais, okay.
Et pas du tout. C'est vachement moins vénère. Voilà, donc il y a plusieurs livres qui sont...
On est déçus.
Ouais, oui, finalement, ça manque de mort, ça manque de sang.
Alors finalement, vous connaissiez l'histoire, mais je vous ai un peu cassé le mythe, quoi, je crois.
Ben oui, alors je t'avoue que pour le coup, je ne savais pas qu'il n'y avait pas, en fait, de mort avérée.
Ok.
Il
n'y a pas de traces. Il y a pas de traces d'écrits de la ville ou.
Mais ils sont pas allés jusque dans une caverne pour faire sortir le mal de la danse.
Et ben justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ont envoyé les gens en pèlerinage en fait à la chapelle Saint-Guy.
Ah d'accord.
Et c'est ça en fait qui était censé les soigner. Ce qui a en soi un petit peu marché puisque au bout d'un moment les gens sont arrêtés de danser. Mais on va y venir vers la fin. On ne sait pas pourquoi ils ont commencé, on ne sait pas pourquoi ils ont arrêté, mais il y a des suppositions dessus. Donc, c'est ce que je commence à vous dire. Il y a plusieurs livres qui sont sortis à ce sujet, mais il faut faire attention, ils sont vraiment à considérer avec précaution. Le livre dont on va entendre le plus parler, c'est un livre qui est sorti en 2016, qui a été écrit par John Weller, qui est un historien spécialisé dans la médecine. Et en français, la traduction, je crois, c'est « Les danseurs fous de Strasbourg ». Et en fait, son bouquin a été un peu décrypté par des historiens spécialisés dans l'histoire de France et de l'Alsace et de tout ça. Et ils ont un peu débunk pas mal de choses. En 2018 aussi, un auteur français ce coup-ci a écrit « Entrer dans la danse ». En fait, c'est une version romancée de l'histoire. Et lui, s'est appuyé sur le bouquin justement de John Weller et des trucs de Paracelse en fait qui sont pas avérés historiquement. Mmh. Donc c'est vraiment romancé. Justement, il y a un très bon article d'Elisabeth Clemens. C'est une enseignante chercheuse en sciences historiques qui a travaillé à l'Institut d'Histoire d'Alsace. Je vous mettrai le lien de l'article, mais qui justement débunk les bouquins et explique par A plus B pourquoi ça colle pas avec des sources historiques, etc. Et il y a une aussi super vidéo YouTube de Thomas Laurent, qui est un youtubeur qui s'intéresse à des faits historiques principalement et qui est vraiment très très pertinente, qui est très bien construite et avec plein de sources. Bon, toujours est-il que au moins les gens qui ont écrit ça, ils ont tenté d'expliquer ce mystérieux phénomène et il y a eu plusieurs théories de fait. Allant plus loin, ah oui parce que ça je ne vous l'ai pas dit, mais la théorie de base de Paracelse, c'était qu'à l'époque, en fait cette épidémie c'était un truc de meuf.
D'accord.
Ouais, c'était une hystérie collective.
Ouais, voilà, c'était une épidémie de femmes qui dansaient juste pour emmerder leur mari. Bon, je vous la fais globale.
En vrai, ça peut être fun, hein.
Mais t'imagines le degré de... Genre, je vais danser jusqu'à mourir pour te faire chier.
Ah ouais, non, c'est... Voilà. Tu vois que j'ai lu ça, je fais ouais, ok, bah, j'ai pas envie de pousser en fait, c'est bon, la misogynie au quotidien, c'est bon, merci.
On en voit déjà bien assez.
Maintenant. Ouais, c'est clair. Donc, les autres théories qui sont un peu plus réfléchies que juste une hystérie, c'est donc à l'époque un empoisonnement collectif à l'ergot de seigle. Donc, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose.
C'est la théorie la plus probable en fait qui ressort souvent.
Ouais, et ça fait écho à l'affaire du pain maudit. Bon alors, c'était bien avant la folle danse de Strasbourg, mais le pain maudit, c'était en 1951 à Pont-Saint-Esprit. Il y a 250 personnes qui avaient été touchées, possiblement par une forme d'ergotisme, avec des alus, des personnes qui sont décédées, des personnes blessées.
Il n'y avait pas eu des hypothèses comme quoi c'était la CIA qui avait fait des essais dans le village aussi ?
Si, ouais, avec du lâcher de LSD.
Et la théorie de l'ergot de seigle, c'est ce qui est apparemment c'est une des théories qui expliquerait les exécutions de Salem et toute la hystérie collective.
Ouais, c'est vrai. J'ai survolé ça, ouais, tout à fait. Enfin, j'ai survolé non, mais je ne vais pas en parler ce soir.
D'accord.
Mais oui, tout à fait, t'as raison. Et en fait, du coup, cette théorie n'est pas la plus pertinente, en fait, pour nos danseurs fous. Parce que, en fait, l'ergotisme, ça provoque des convulsions, parfois des alus, la gangrène. Et en fait, là, comment c'était décrit par les sources de l'époque, c'est pas des gens qui convulsent, c'est des gens qui dansent, vraiment.
Okay.
Alors, peut-être qu'ils dansent pas de leur plein gré, on ne sait pas, mystère, mais ils dansent, vraiment, c'est coordonné.
C'est coordonné.
C'est vraiment l'image du flash mob la Macarena, tout ça.
Ah, oui, voilà. Et la deuxième théorie, c'est ma théorie préférée. C'est un phénomène, comme tu mentionnais tout à l'heure, Juliette, d'hystérie collective. En fait, une espèce de transe collective avec ce qu'on appelle, alors c'est un peu complexe, je trouve, j'ai essayé de l'expliquer simplement, un phénomène de conversion. En fait, c'est un phénomène dont parle John Wheeler, justement. En fait, comme les PTSD, en fait, ce que tu subis psychologiquement, c'est ton corps qui le traduit. Comme les gens qui sont témoins de scènes choquantes et d'un coup, ils ont des bleus.
Oui.
Voilà. Du coup, voilà, ce serait en fait tous ces Strasbourgeois, ce seraient des gens principalement issus de la classe pauvre qui vivraient avec un stress permanent, avec des maladies, qui se seraient sentis abandonnés par le clergé à l'époque. Où en fait, ils auraient somatisé ça, et ça se serait traduit à travers cette danse folle. Et collectif, parce que ça gagnait les gens, quoi, un peu comme une contamination. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que ça permet aussi de faire un lien avec ce qui se passait à l'époque, et de pas juste dire « ces gens sont fous ». Ça fait vraiment un background social...
Oui.
Historique est vraiment chouette et je trouve ça dommage que... Bon, après, je suis pas historienne, hein, mais qu'ils aient mis autant de temps, en fait, à supposer ce truc. Qu'ils aient passé autant de temps à se dire que c'était juste des meufs hystériques. Ils auraient pu...
Il y a beaucoup...
Pour faire chier leur mari, tu vois.
Faut en vouloir quand même d'arriver à cette interprétation.
Après, justement, l'hystérie, tu vois, c'était pareil. C'était un manque de liberté, de possibilité d'action, etc., d'enfermement qui faisait que ça les rendait folles.
Oui.
C'est un peu le même principe.
C'est vraiment de se sentir, en fait, enfermé dans sa condition.
C'est ça.
Et du coup, dans leur esprit, c'était vraiment... leur cerveau était vraiment un terrain hyper fertile pour intégrer... un scénario qui est complètement inconscient. Et du coup, c'est là où la danse de Saint-Guy prend son sens, c'est parce qu'ils pensaient que Saint-Guy les avait punis, en fait. Et du coup, la malédiction de Saint-Guy, c'était ça, c'était de danser. Je vous ai parlé donc tout à l'heure de Thomas Laurent, qui explique vraiment bien ce phénomène. Et justement, il fait le parallèle avec la dernière épidémie connue dont je vous ai parlé tout à l'heure à Madagascar, en 1863, à Madagascar. Et où en fait, pareil, cette épidémie de danse a été générée par un stress social.
Dû à quoi, le stress
Pauvreté,
social
Pauvreté, abandon de l'État.
Et c'est pareil, ça a duré des semaines comme
Je sais pas. Okay. Il faut savoir que cette épidémie de danse à Strasbourg, c'est la mieux documentée pour l'époque.
Okay.
Donc en fait, souvent, quand on parle, il y en a eu plusieurs, mais on parle principalement de celle-ci. Parce que c'est là où il y a le plus de documents, le plus de sources, le plus de gens qui ont travaillé dessus. Voilà, donc aujourd'hui, rien ne nous permet de savoir avec certitude ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment un phénomène d'hystérie collective? On n'y était pas. Est-ce qu'il y avait de l'ergotisme? Est-ce que c'est encore autre chose? Est-ce que finalement, dans 200 ans, on apprendra qu'il y aura vraiment une force divine qui les a forcés à danser? On ne sait pas.
J'adore comment tu laisses la porte ouverte à la force divine, l'hypothèse de la
mais
force
oui,
divine.
Mais oui, il faut tout toujours. Envisager, ouais.
Faut, oui, toujours.
Ouais, et puis attends, je fais gaffe, mais ça se trouve, demain je me lève, je suis en train de danser, tu vois, donc...
Mais est-ce que la vie ne serait pas meilleure comme ça?
Ah, je sais pas, on a vachement dansé hier soir, mais là, tu vois, les conséquences, elles sont un peu hardcore. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, vos théories dessus.
Je t'avoue que je sais pas trop parce qu'on a mis beaucoup de choses sur l'ergot de seigle.
Ouais.
Beaucoup. À chaque fois, c'est genre, oh, mais c'est peut-être l'ergot de seigle. Après, je ne connais pas.
Moi, je pense que c'est et psychologique et par manque de nourriture, tu vois, d'avoir ouais. des carences, tout ça.
Ouais.
Qui a créé.
Justement, je crois que c'est Jean Tellet qui reprend Paracels et qui dit qu'en fait, cette nana qui s'est mise à danser, elle était décharnée à cause du manque de viande à l'époque, à cause de la famine. Mmh. Et que du coup, c'était un facteur de stress aussi. Mais pareil, il n'y a pas de preuve qui dit que c'était quelqu'un en carence, tu vois. On le suppose, mais ouais, ouais.
Oui, et puis c'est pas le même contexte historique, le même contexte religieux, donc on ne sait pas comment ça s'est manifesté. Ça peut être effectivement de l'hystérie, on ne sait pas.
Mm-hmm. Et ça se trouve, dans 200 ans, dans l'hystérie, on se rendra compte que c'est autre chose.
Peut-être.
C'est peut-être...
Un appel divin.
Un appel divin.
La punition divine.
Un mini-robot moucheron qui rentre par ton oreille et qui te dit que des trucs. Non, mais on ne sait pas. Hein, moi, je suis ouverte à tout. Sandy, est-ce que tu veux nous parler de ton mystère?
Eh bien, moi, je vais vous parler... de la conspiration de la paillette.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est?
La conspiration de la licorne?
Non. Alors, tout commence avec un article du New York Times de 2018 qui s'appelle « C'est quoi la paillette ?»
Avec cet accent-là?
Écoute, le vrai titre, c'est plutôt « What is glitter ?»
Wow.
Mais du coup, c'est quoi la paillette? Dans l'article, qu'est-ce que la paillette? Le journaliste interviewe pour l'occasion un représentant du plus gros producteur de paillettes des États-Unis, l'entreprise Glitterex.
Glitterex.
L'échange. Et en fait, dans cet article, il y a un échange qui a démarré toute l'histoire de la conspiration. Alors, la journaliste dit: quand j'ai demandé à Mrs. Dyers si elle pouvait me dire quelle industrie était leur plus gros client, sa réponse fut instantanée. Non, je sais parfaitement que je ne peux pas. J'ai été déconcertée. Mais vous savez qui c'est? Oh mon Dieu, oui, dit-elle en rigolant. Mais vous ne devineriez jamais qui c'est, donc arrêtons là. Je lui demandais pourquoi elle ne pouvait rien me dire, et elle répond: parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un sache que c'est des paillettes. Mais si je le voyais, je ne pourrais pas savoir que c'est des paillettes? Non, non, pas vraiment. Et si je pourrais voir les paillettes? Oh oui, vous seriez capable de voir quelque chose. Mais je ne peux pas. La journaliste conclut en disant: j'ai demandé si elle pouvait m'en parler officieusement. Ce fut non. J'ai demandé si elle pouvait m'en parler officieusement après que l'article soit publié. Ce fut non. Je lui ai dit que je ne pouvais pas mourir sans savoir ce que c'était. L'extrémisme de la journaliste.
C'est clair. Combattons pour la paillette.
Elle m'a orientée vers les pigments utilisés dans l'industrie automobile. Donc, cet échange a fini sur Reddit et a commencé la fameuse théorie de la conspiration de la paillette. Et surtout, qui est le plus gros acheteur au monde? Parce que Glitterex est une des plus grosses entreprises aux États-Unis, mais aussi dans le monde, de paillettes. En fait, il y a eu plusieurs théories complètement folles là-dessus.
Ouais, les pigments automobiles, donc en fait, c'est une grosse marque automobile qui achète les paillettes?
Non.
Ok, j'ai pas compris alors. Enfin, je...
Moi non plus, j'avais pas tout compris.
En fait, quand l'échange a été publié sur Reddit, beaucoup de gens ont dit « Non, non, mais elle a orienté vers les pigments automobiles pour couvrir le vrai acheteur. »
D'accord.
Il y a un sous... c'est pour tout couvrir. Elle veut pas vendre... Elle veut pas révéler le nom du véritable client. Donc, plein de gens sont partis dans des théories complètement folles sur le vrai acheteur. En fait, les gens sont surtout partis sur le fait que c'était peut-être alimentaire qu'il y en avait dans la nourriture et qu'on en mangeait sans s'en rendre compte.
Et du coup, on pète des paillettes.
Tu veux qu'on le laisse au montage, celui-là?
Ouais, parce que j'en suis fière.
Donc en fait, il y a eu plusieurs théories, dont notamment que ce serait peut-être l'armée. L'armée, pourquoi ? Parce que ce serait peut-être utilisé dans la base de peinture utilisée pour recouvrir les avions de combat. Mais non, en fait, ça a été prouvé que non, c'est à partir de fer, la peinture.
Mais je comprends pas, même si c'était le cas, est-ce que c'est grave ?
Non.
Tu vois, je comprends pas la notion de mystère autour, genre... Si c'est l'armée qui utilise des paillettes, est-ce que... Waouh, pourquoi elle le dirait pas ?
Bah, bonne question.
C'est une arme secrète.
Je pense qu'ils vont anéantir le monde avec des paillettes.
Est-ce qu'ils ont l'intention de recouvrir tout ?
Tout le monde. Est-ce que le monde ne serait pas meilleur? Non, je sais pas.
Ils sont biodégradables?
Non.
Ah ben non alors. C'est mort.
Non, c'est du bon vieux plastique.
C'est en plastique d'ailleurs les paillettes?
Oui, les paillettes en tout cas que Glitterx produit, c'est des toutes petites particules de plastique recouvertes d'aluminium. Donc le truc
c'est
reste.
C'est vénère.
Alors, le truc reste dans l'univers
pour jamais. Toujours.
Wow, elle a lâché un indice et je pense qu'elle en sait plus que nous. Elle a dit le truc reste dans l'univers. Elle n'a pas dit sur Terre, elle a dit dans l'univers.
Parce qu'ils en ont envoyé sur Mars, voilà. Sur la Lune. Voilà.
Ouais.
Des paillettes.
Oui.
La Lune n'existe pas d'ailleurs, c'est juste une boule en papier mâché
c'est
avec
ça,
des paillettes.
En fait. Elle est lumineuse parce qu'ils l'ont recouverte de paillettes. Tout un complot.
Il y a eu d'autres personnes qui ont soulevé que c'était peut-être la cosmétique, mais cette théorie a été réfutée parce qu'en fait, dans l'article du New York Times, un des seuls clients qui a accepté de révéler son identité, c'est une marque de cosmétiques. Et la cosmétique ne fait pas mystère qu'ils utilisent des paillettes dans leur maquillage. Il y a aussi d'autres personnes qui ont soulevé que c'était peut-être pour l'argent. L'argent, les billets.
Ah.
La fabrication des billets.
Comme dans Good Girls.
Comme dans Good Girls.
Vous avez vu la série Good Girls ?
Non.
Elles font des faux billets avec du vernis à ongles, mais une nuance particulière.
Ah non, j'ai pas
nacré.
Vu.
On a tout à apprendre.
Mais ça n'explique pas en fait le fait que ce soit le plus gros acheteur. Les volumes ne correspondent pas. Il y a aussi d'autres personnes qui ont soulevé que c'était peut-être dans les dentifrices. Cette théorie est corroborée par le fait qu'il y a eu effectivement des microplastiques dans les dentifrices jusqu'en 2017. Tu sais, les petites billes que tu retrouvais dans les...
Oui, c'est vrai, il y avait ça quand on était gamine.
Ouais. Ouais. Et en fait,
c'est vrai qu'ils ont arrêté de faire ça.
Ça a été interdit. Donc c'est parce que c'était extrêmement polluant. Ça se retrouvait dans l'océan, tout ça. Donc là aussi, c'est pas possible. C'est... Voilà.
Oh là là, tellement de théories.
Tellement de théories. Moi, ma préférée, c'est quand même un mec sur Reddit qui a suggéré... ouais, c'est peut-être qu'ils mettent des paillettes sur les sites touristiques, genre les plages, pour les rendre plus belles.
la nacre naturelle des coquillages n'existe pas,
oui,
c'est des paillettes.
C'est ça.
Mais je pense que c'est ça. Hein.
Oui, c'est peut-être ça. Le premier mec qui a posté l'échange sur Reddit a quand même dit, dans sa liste des potentiels suspects, écoute, c'est peut-être l'industrie funéraire. Je sais pas pourquoi, mais cette industrie remplie de tours de passe-passe qu'ils veulent garder secret. Et ça m'étonnerait pas que les paillettes en fassent partie.
Qu'est-ce qu'ils vont foutre avec des paillettes ?
Mais l'industrie funéraire, tu m'as dit, le plus gros acheteur de paillettes au monde, l'industrie funéraire.
Les gars. Ouais, normal. Et en fait, ouais, peut-être pour mettre, je sais pas, dans le stuc, dans le faux marbre, je sais pas.
J'en sais rien du tout.
En fait, ces suppositions, je les pige pas parce que, en fait, je vois pas l'intérêt.
Bah, c'est plus genre le mystère, tu vois, la journaliste dit non, mais enfin, non, celle qui dit non, mais vous devinerez jamais, et puis c'est pas grave, on passe à autre chose. C'est les chercheurs de mystère, les chercheurs de solutions. Le mystère, en vrai, je vais un peu. Le mystère était résolu, mais.
Ah ben non.
Ah oui, du coup, c'est plus un mystère.
Mais en fait, beaucoup de gens ne n'y croient pas.
Ah.
Ils sont dans le déni le plus complet.
Trop bien.
Oui, c'est ceux qui croient à la théorie funéraire.
C'est ça. Et en fait,
les plages, celle des plages aussi.
Ah, celle des plages aussi.
Il y a le mystère a été résolu il y a un an, mais depuis, il y a quand même des gens qui pop régulièrement et qui disent non, mais écoutez, j'ai la solution, je sais qui c'est. Je n'y crois pas, la solution qui a été trouvée, c'est celle-ci.
Et parce qu'ils n'ont pas eu leur Reddit Award.
Peut-être.
Parce qu'ils se font chier dans leur vie et que...
Mais je te jure, les gens arrivent avec des théories extrêmement bien documentées, il y a des arguments et tout ça. Enfin, c'est...
Ok.
Ah ouais.
Donc en fait, ceux qui ont trouvé la solution, ce sont des gens du podcast Endless Threat. Ils ont mené l'enquête, hein, mais vraiment, ils sont allés à Glitterx, ils ont posé des questions.
C'est genre Élise Lucet de...
Pardon. De la paillette.
De la paillette.
Et Et en fait, ils se sont renseignés à droite à gauche. Ils ont aussi interrogé des professionnels du métier de la paillette. Je ne pensais pas dire cette phrase un jour, mais...
J'adore, j'adore.
Et en fait, ils ont réussi à entrer en contact avec quelqu'un qui a des clients chez Glitterex. Donc, ces clients ont pu poser des questions et ont confirmé qui était le plus gros acheteur de paillettes de Glitterex. Et à votre avis, c'est qui ?
C'est une personne ou une société ?
C'est une industrie.
C'est une industrie ?
Cosmétique ?
Non.
Non.
Ah, peut-être le vêtement, du coup, l'industrie textile ?
Non plus.
Pharmaceutique ?
Non plus. C'était une théorie, mais non.
Ah ouais.
Ouais, c'est vrai, les trucs de bronzage.
Ouais.
Une industrie. Un pan reste, entier de l'industrie ?
Bah, alimentaire. Un pan entier de l'industrie.
Non.
Non.
Ah, bah les joujoux ?
Non.
Ah bon ?
Les petites peluches ?
Je suis super déçue.
Les petites. Bah, l'armée, du coup, on n'en parlait pas tout à l'heure.
Non. Non.
Franchement, je sais pas.
Eh bien, il s'avère que ce sont.
Pas d'indice.
Ah, vous voulez un indice ?
Direct. Ok.
Ça va sur l'eau.
Des bateaux.
Fabricants de bateaux.
Et qu'est-ce qu'ils foutent avec des paillettes ?
Ouais, c'est clair, qu'est-ce qu'ils font avec des paillettes ? C'est pour les yachts et tout ça ?
C'est en fait...
Me dis pas qu'ils les mettent dans la mer pour polluer ?
Pour la rendre plus brillante !
Ils tracent un chemin de paillettes, ouais, qu'ils suivent.
Oh, regardez, une sirène !
Et un autre mystère résolu, le mystère
des sirènes. Ce sont des longues tracées de paillettes dans la mer. En fait, il y a deux choses, c'est-à-dire que les fabricants de bateaux sont les plus gros acheteurs parce qu'ils utilisent les paillettes dans de la peinture qui recouvre les bateaux pour le rendre un peu brillant, pour le rendre joli, mais c'est moins cher. Ça se voit pas en fait que c'est de la paillette sur la peinture, et ils utilisent ça pour recouvrir les petits bateaux notamment. Et il y a aussi un autre bise que je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'il y a toute une culture du petit bateau qui va sur l'étang, le lac et tout ça. Et apparemment, plus il brille, mieux c'est.
Et chérie, tu viens faire un tour sur le lac ? J'ai le bateau qui brille.
C'est fou.
Apparemment, il y a un youtubeur qui explique très bien, en fait, qui expliquait cette conspiration de la paillette et qui était allé voir sur des forums, qui posait la question, notamment un mec qui demandait « C'est quoi le délire autour des paillettes dans les bateaux et tout ça ?» Et tous les gens qui ont effectivement des petits bateaux disaient « Bah écoute, t'as qu'à avoir un bateau qui ressemble à tous les autres et casse-toi. »
Ils sont surtout fait vachement de pubs comme ça, je pense.
Ouais, c'est
oui
possible.
Et non.
Ils ont dû bien se faire référencer vu tous les gens qui mentionnaient leur nom de compagnie.
Oui, en fait, c'est justement le fameux youtubeur dont je vous parle. Il expliquait que cet article à la base n'était pas du tout destiné à démarrer une conspiration de fou, mais était plutôt destiné effectivement à remonter dans les premiers résultats de Google.
Mmh. Ouais.
Avec les mots-clés, tout ça, tout ça.
Ok.
Donc voilà. Alors pourquoi tant de mystères autour de ça ? Genre pourquoi elle voulait garder ça secret, pourquoi elle disait non mais je vous le dirai pas.
Bah pour faire justement remonter les articles.
Peut-être, il y a une théorie qui dit que oui effectivement la conspiration, enfin les théories de conspiration sont toujours extrêmement virales, donc ça fait remonter. Mais après c'est pas très vendeur. Je trouve.
Bah c'est pas très vendeur de révéler ta stratégie de com, non ? Vous m'avez perdu là.
Non, je sais comment vous expliquer. C'est en fait à la base, ils voulaient juste parler des paillettes et genre que Glitterex les fabriquait. Puis bon, bah, une conspiration du plus gros acheteur et tout ça, c'était pas prévu dans le programme, mais c'est pas forcément très vu d'une bonne façon.
Mm-hmm.
Et aussi, ils pensent, les gens, du coup, ceux qui ont trouvé la solution pensent que les fabricants de bateaux ne veulent pas attirer l'attention sur le fait que ce soit des paillettes parce que déjà c'est moins cher et que ça arrive dans l'océan.
J'ai pas compris, c'était moins cher de quoi ? Tu l'as dit tout à l'heure déjà et j'ai pas compris.
Ça permet d'avoir une peinture qui recouvre les bateaux moins cher qu'un autre produit de peinture.
Ah bon ?
Mais du coup, ça, c'est moins cher, mais est-ce que ça dure plus dans le temps ?
Ça, je sais pas. Je sais pas.
Mais un autre produit de peinture, ce serait de la peinture avec des paillettes.
Ou une autre peinture, je sais pas.
Ok, d'accord.
Et du coup, ça marche pareil pour les voitures, j'imagine. Les peintures pailletées, tu sais, un peu brillantes.
Je pense aussi, oui, puisque au début.
Ça doit être moins cher que les peintures mates.
Oui, je pense aussi. Je fais des hypothèses, hein. Genre, pas sûre.
Tu t'es pas renseignée sur les prix de la peinture pailletée?
Écoute, j'ai dû déjà aller chercher. Est-ce que c'était effectivement la peinture qui recouvrait les avions de chasse?
T'as été vérifier les théories?
Je suis là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire?
Ouais, moi aussi, je comprends. En préparant la chronique, j'étais... Ouais, je me suis posé des questions.
Et donc oui, en fait, ils pensent qu'elle voulait pas attirer l'attention sur le fait que c'était les fabricants de bateaux, parce qu'effectivement, c'est extrêmement polluant. Et que les paillettes arrivent dans l'océan. Et la fabrication de paillettes, de manière générale, est polluante.
Ouais, aussi. C'est clair.
Oui,
c'est sûr.
Donc voilà, il y a quand même du coup quand le podcast a sorti cette solution extrêmement bien documentée, et moi j'y crois quand même, j'y crois à 100%, il y a quand même des gens qui ont commenté tout ce temps et cette énergie mentale, j'y ai pensé au moins une fois par semaine et au final c'était de la peinture pour bateau les gars. Et aussi il y a quelqu'un d'autre aussi qui dit, alors j'étais persuadée que c'était du dentifrice pour enfants, mais qui en a quelque chose à foutre de la peinture pour bateau?
Mais qui en a quelque chose à foutre du dentifrice pour enfants?
C'est vrai. C'est le scandale. Oh là
ok.
Là.
Ouais, les gens se sont outrés, quoi.
Ouais.
D'accord.
Et il y a, du coup, beaucoup encore refusent cette théorie.
Ah ouais?
Voilà. Donc ça reste un...
C'est fou. Non, mais c'est fou.
Et c'est rigolo, moi, je trouve. Les gens se sont montés en épingle pour rien.
Ouais, bah ouais, ouais. De ouf. C'est fou, cette histoire. Ouais. Merci beaucoup pour cette histoire de paillettes. Je pensais que ce serait plus glamour.
Ouais, moi aussi, je suis un peu déçue.
Ah, c'est les fabricants. Je sais, c'est pour ça que les gens, en fait, c'est marrant parce que c'est plus... Effectivement, beaucoup de l'ont... J'ai pu le lire dans les commentaires. C'était... ce qui était drôle, c'était le... C'était, comment dire, t'as tout le mystère en mode qu'est-ce que c'est et tout ça. Et comme toujours, quand t'as la solution, bah, c'est pas comme tu te l'imaginais, donc ouais. C'est moins fun.
Mmh. Ouais, moi je me disais, ouais, peut-être le milieu de... Du business, tu vois, de l'entertainment, du show à paillettes, carnaval de Rio, et non, les bateaux.
La paillette.
La paillette. Merci beaucoup Sandra pour cette rubrique spéciale paillettes. Et... Juliette.
Ouais.
Alors, toi, tu nous avais donné comme mot-clé...
Moi, je vous avais donné comme mot unicellulaire.
Ah oui.
Parce que ma rubrique va être encore un peu scientifique.
Est-ce que tu veux parler du blob?
Oui.
Oh oui. Les blobs attaquent la plage.
Du coup, je vais vous parler du blob. Alors, on entend beaucoup parler ces derniers temps.
Oui.
Et moi, je l'ai découvert grâce à un documentaire sur Arte. Voilà, il y a plusieurs mois qui est sorti, qui est super, que je vous conseille.
Ok.
Et du coup, je vais vous raconter un peu la petite histoire de l'origine du blob. Quand est-ce qu'on l'a découvert? Ce qu'on sait aujourd'hui sur lui et ce qui reste à découvrir, parce qu'en fait, on sait comment il fonctionne, mais on comprend pas pourquoi il fonctionne comme ça. C'est vraiment un être... un peu magique encore, voilà, un être trop terrestre, bien. Mais très étrange.
Trop bien.
Alors du coup, l'histoire. Donc ça commence en 1973, au Texas. On en entend parler pour la première fois. Donc ce matin-là, Mary Harris découvre dans son jardin un champignon en forme de grosse omelette mousseuse. Elle le découpe en morceaux et il cicatrise et il continue de grandir. Le lendemain, elle retourne dans son jardin et... La petite bête, elle a doublé de volume. Donc, elle continue de paniquer. Elle essaie un insecticide. Le blob change de couleur.
Quoi? Sérieux? Mais...
Il change de couleur?
Il change de couleur.
Il était quelle couleur à la base?
Il était jaune.
Ok.
Une grosse omelette.
Oui, une omelette mousseuse.
Voilà, il était jaune.
Je verrai plus jamais les omelettes de la même façon.
Moi non plus.
Et pareil, à nouveau, la créature, elle semble absorber l'insecticide. Et le lendemain, elle retourne dans son jardin, bah, il a encore doublé de volume.
La créature de l'enfer.
J'espère qu'elle a un grand jardin.
Son mari l'attaque à la hache.
Sa femme ou le blob?
Le blob. Et pareil, à nouveau, le blob saigne et il cicatrise. Et il retourne dans le jardin, il a encore doublé de volume. Donc là, en désespoir de cause, ils appellent les pompiers qui pulvérisent d'eau. Ça marche pas du tout. Ensuite, les policiers se ramènent. Et... Non, mais ça fait...
Excusez-moi, monsieur le blob, vous êtes en état d'arrestation. Arrêtez tout de suite.
Ils sont tous en panique. Et les flics se ramènent. Et comme tout bon cow-boy du Texas, ils se mettent à lui tirer dessus.
Oh non! Mais ce pauvre blob, il avait rien demandé.
Et oui, il était désarmé. Et Donc on lui tire dessus et ça ne marche pas du tout. Et au total, l'omelette a atteint 16 fois sa taille d'origine. quand elle l'a découvert dans le jardin. Donc il devenait vraiment gigantesque. Tout d'un coup, après la visite des flics...
Ça l'a tout de suite calmé, il est redescendu d'un étage.
Il retourne dans le jardin et le blob avait disparu.
Ah bah...
Totalement. Plus aucune trace.
Il est parti sur ses petites pattes.
Exactement. Avec son sac à dos, la hache, et il est parti. Voilà. Donc, à l'époque, comme en plus, voilà, les années 70, il y a beaucoup de théories liées aux extraterrestres, etc. Du coup, ça a fait le tour des journaux et on parle de formes extraterrestres. Et voilà, il se transforme, il a des pattes, des bras.
Voilà, est-ce que c'est pas la même année que la rubrique que tu as fait sur le Crack Master, Crack Monster ?
T'as dit quelle année ?
73.
Ah oui ?
Ouais, hein.
Effectivement.
Ça me faisait écho.
Ouais.
Qu'en fait, je pense que c'est lié.
Drôle d'année, cette année 73.
Et donc, cette anecdote, elle inspire le film d'horreur The Blob de Steve McQueen, dans lequel une masse informe venue de l'espace grandit en ingérant toutes les personnes qu'elle rencontre. Voilà, c'est une créature qui se glisse partout, elle dévore tout le monde et personne ne peut l'arrêter.
Voilà. J'adore ce genre de
film. Ça a inspiré ce film. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, son petit nom, c'est Blob. Voilà, c'est en hommage à ce film.
J'imagine tellement The Blob.
C'est ça. Blob, vous irez voir la bande-annonce. Et...
C'est trop fort.
C'est très fun. Et donc, son vrai nom à cette bébête, c'est Physarum polycepharum.
C'est mimi.
Oui.
Très mimi.
Très mignon. Et donc, il est apparu il y a 1 milliard d'années, avant les champignons et avant les éponges. Donc, c'est potentiellement l'un des premiers animaux terrestres.
D'accord.
Voilà.
Mais unicellulaire.
C'est ça. Sa particularité, c'est que c'est une seule cellule, mais avec plusieurs noyaux. Nous, c'est l'inverse, on est composé de plusieurs cellules avec un noyau. Et là, c'est une cellule qui a plusieurs noyaux. Donc en plus, c'est vraiment une particularité unique.
Okay.
Et donc, comme elle peut produire à l'infini, enfin, elle semble produire des noyaux à l'infini, il y a des blobs qui ont pu atteindre jusqu'à 10 mètres carrés.
Wow.
Et c'est la seule bébête. La seule cellule, en fait, c'est la cellule la plus gigantesque qu'on ait pu répertorier.
Alors attends, du coup, en fait, c'est une seule et même cellule, un blob entier.
Oui, avec plusieurs noyaux.
D'accord, d'accord.
Lui, il crée des noyaux pour se développer.
Mais tu disais tout à l'heure qu'il avait disparu, donc il se déplace.
Alors
vraiment,
pour revenir à l'anecdote, effectivement, au Texas, c'est certainement que... alors soit il y a eu une grande sécheresse, quelque chose dans son environnement, en fait, qui l'a fait disparaître, qui l'a fait mourir.
Mais quand il meurt, il disparaît ?
Il se dessèche.
D'accord.
Il peut disparaître.
Ok.
Mais il me semble que les blobs pouvaient se déplacer.
Oui. Donc effectivement, il n'est pas... on n'arrive pas à le ranger dans une catégorie du vivant. Parce qu'il se déplace et il se nourrit comme un animal. Donc il arrive à se déplacer 1 cm par heure en moyenne. Sans pattes. Donc il se déplace...
Il glisse
en fait, comment ?
Il glisse ?
Non, alors c'est presque plus comme un serpent. Tu sais qu'il contracte et il décontracte ses muscles pour pouvoir avancer. Et là, c'est un peu le même principe, sauf que c'est son système veineux qui envoie du sang, enfin c'est pas vraiment du sang, mais c'est son liquide, qui envoie et qui rétracte, et ce battement qui fait que il va prendre...
Mais pourquoi il se déplace ?
Bah pour pouvoir se nourrir.
Et il se nourrit de quoi ?
Il se nourrit de champignons, de bactéries et il chasse les autres blobs.
Oh, parce qu'il existe
plusieurs espèces de blobs et ils peuvent se tuer et se manger entre eux.
Oh, c'est trop mignon.
C'est dégueulasse.
C'est horrible.
C'est horrible.
Chasse, c'est trop chouchou.
Mais non, ils se mangent entre eux, ils sont cannibales.
Bah oui. Donc voilà, donc c'est pas un animal. C'est pas non plus vraiment une plante. Il peut pas être rangé dans la catégorie des plantes, mais il produit des pigments comme une plante. Et il peut pas non plus être mis dans la catégorie des champignons, mais il se reproduit avec des spores comme un champignon.
Pourquoi il peut pas être dans la catégorie des champignons ?
À cause de sa cellule.
Ah oui !
Exactement. C'est sa composition même, en fait, qui fait qu'on peut pas le ranger.
Ok.
En fait, il regroupe plein de particularités différentes, mais voilà, il est unique. Autre particularité vraiment assez fascinante, et c'est pour ça aussi qu'il est beaucoup étudié, c'est qu'il est quasiment immortel. Dans le sens où, quand normalement il est en grande difficulté, il se dessèche. Et logiquement, si on lui remet un peu d'eau sur la tête, il se réveille. Mais il se réveille pas n'importe comment. Il se réveille sous forme de bébé.
Oh
voilà, alors que quelques jours auparavant, il pouvait être un vieillard.
Oh, oh, c'est trop fou.
Phoenix. Voilà.
Exactement.
Ouais, il repart à zéro à chaque fois.
Ouais. Et du coup, dans des laboratoires, ils ont réussi à lui faire atteindre voilà, 70 ans. En fait, c'est le même blob qu'ils étudient depuis des années, en faisant sécher, dessécher, etc. Donc en fait, souvent, il meurt dans la nature parce que il va se faire bouffer par un autre blob, ou il va y avoir des intempéries, ou des choses où il va pas trouver de nourriture pendant très longtemps, et du coup, il va en mourir. Mais sinon, voilà, en laboratoire, en tout cas, pour l'instant, on émet l'hypothèse qu'il peut être immortel. Donc on étudie justement cette capacité-là pour plusieurs maladies, dont le cancer, et voir comment on pourrait s'en servir pour régénérer des cellules, etc. Il a aussi la particularité, comme on l'a vu dans le fait divers, quand on le découpe, eh bien, il se divise. Ça vient de...
blobs.
De blobs.
Ok.
Mais du coup, est-ce qu'ils peuvent se manger entre eux ?
Oui, et il peut fusionner. Si tu divises un blob, il peut éventuellement, s'il se re-rencontre, refusionner. Et ils peuvent s'entraider pour aller chasser, etc.
Oh, je vous ai dit qu'ils étaient trop mignons.
Et d'ailleurs, il y a eu des expériences dans un laboratoire français où ils ont fait des expériences avec différents blobs de différentes nationalités.
Voilà. C'était compliqué parce qu'ils parlaient pas la même langue.
Mais oui.
C'est ça.
Mais non.
Non, et qu'en fait, par exemple, ils ont remarqué que chaque blob de chaque nationalité avait des comportements différents. Et par exemple, les blobs américains, ils sont... Par exemple, s'il y a une seule source de nourriture, ils s'entretuent, ils ne fusionnent pas.
Même s'ils sont de la même espèce.
Exactement, même si c'est le même être qui était divisé de base. Et du coup, il y a des caractéristiques comme ça un peu marrantes.
Mais c'est plus issu du biotope que de la nationalité, quand même.
Oui, leur environnement leur fait avoir des comportements, des caractéristiques différentes. Mmh. Voilà. Comme les êtres humains, en fait.
Ouais, 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 tout à fait.
Alors, du coup, donc, où vit le blob? Où est-ce qu'on peut en rencontrer?
J'aimerais bien.
Moi aussi.
Donc, il vit principalement dans les sous-bois. Donc, parce qu'il aime les espaces sans trop de soleil, en fait, où il ne sera pas desséché. Un peu dans la pénombre et dans l'humidité. Donc les sous-bois, c'est top pour lui, mais on peut trouver des blobs un peu partout. Apparemment, il y a des blobs parfois sur des parkings.
Est-ce qu'il y a des blobs qui vivent dans l'eau ?
Non, j'ai pas trouvé.
D'accord.
Je crois pas.
Est-ce qu'on en trouve en France ?
Oui, oui, oui.
Ok.
Ouais. Il y en a un peu partout, en fait.
C'est fou.
Mmh. Oui.
Alors parfois, moi j'ai vu des photos de blobs blancs, et ça ressemble à du lichen presque. Donc on peut, je me suis dit, on a pu passer en fait à côté sans s'en rendre compte.
Et ça se mange pas du coup ?
Non, non ça se mange pas.
C'est peut-être hyper bon.
Loli direct, est-ce que ça se mange ?
je suis pas sûre parce qu'en fait il y a rien à manger.
Quand même.
Y a pas de chair, c'est une cellule.
S'il fait quand même 10 mètres carrés.
Ça fait une sacrée omelette. Hein.
Ouais, grave.
Oui, mais là 10 mètres carrés c'est avec des expériences particulières, mais dans la nature... souvent, il fait 10-20 cm carrés.
Ça fait une bonne omelette.
Mais c'est pas très épais. C'est comme du, imaginez du lichen un peu. Mmh. Tu vois, c'est une surface plate, c'est tout fin. C'est... Alors, ça peut devenir grumeleux, c'est cet aspect d'omelette brouillée, là. Mais je suis pas sûre. Franchement, il faudrait 10 mètres carrés de blob pour se satisfaire, quoi.
Ouais, j'avais pas compris. Moi, je croyais que c'était fluffy.
Non, aussi... ça fait pas comme un flan. Hein. C'est vraiment...
Non, en vrai,
c'est rampant et c'est pas très épais en fait comme truc.
En fait, c'était la manière, quand elle disait, ça avait l'aspect d'une omelette juteuse au début. Donc t'as l'impression que c'est extrêmement épais. Du coup.
Oui, ça dépend comment tu fais ton omelette.
D'accord.
Les œufs norvégiens.
C'est ça. Et tout à l'heure, je vous parlais du coup du laboratoire à Toulouse.
Ah, c'est en France, mais c'est à Toulouse ?
Ouais.
Ah, trop rigolo.
C'est là où se trouve Audrey Dussutour, qui est la grande spécialiste du blob en France. Et qui a, du coup, elle fait pas mal d'expériences avec le blob concernant la nutrition aussi. Parce qu'en fait, le blob, il a la faculté d'auto-réguler sa nutrition, de savoir directement quel aliment est bon pour lui ou pas. de réguler tout seul son régime alimentaire en fonction de ce qu'on lui propose. Donc, si par exemple il manque, imaginons, de protéines, il va en manger davantage les jours suivants pour se satisfaire. Enfin voilà, il régule son alimentation. Et du coup, voilà, ils ont fait pas mal d'expériences avec ça. Et c'est eux qui ont utilisé des blobs de nationalités différentes pour voir si, également avec l'alimentation, ils avaient des régimes alimentaires différents.
Du coup, il y a des végétariens, il y a des pesco-végétariens. Alors, non.
C'est le blob en laboratoire, il est nourri avec des flocons d'avoine. C'est sa nourriture favorite.
Il est hipster, le blob.
Exactement.
Le blob.
C'est trop mignon.
Il est adorable.
Il est trop chouchou.
Il est adorable. Quand ils ont commencé à les faire nourrir avec des flocons d'avoine, ils ont pris des flocons d'avoine bio. Et voilà, ils nourrissaient les blobs avec des flocons d'avoine bio. C'est tout se passait mignon. Bien. Et un jour, ils reçoivent du coup le blob américain. Et ce blob-là détestait les flocons d'avoine bio. Et du coup, ils ont changé. Et ils ont pris des flocons d'avoine... voilà, rempli de pesticides et tout pour tous les blobs. Parce que l'Américain voulait pas se nourrir de bio.
C'est rigolo.
Voilà.
Je sais pas comment interpréter cette information.
Bah, plus dans le sens où je pense que là-bas, peut-être que là d'où ils venaient, c'était une terre déjà très polluée. Mmh. Et qu'en fait, le blob s'était adapté à ça. Et qu'ils connaissaient plus que ça.
Est-ce qu'ils étaient obligés de punir tous les autres pour ça?
Eh ben, le problème, c'est que quand tu fais une expérience... scientifique, t'es obligé d'avoir les mêmes données pour chacun.
D'accord.
Donc du coup, il fallait qu'ils prennent la même chose pour tout le monde.
Du coup, t'es venue nous voir à Toulouse, mais en fait non, t'es venue rencontrer...
Exactement, donc ce soir avec nous, Audrey du Sutour. Donc j'avais vu qu'il avait été pas mal étudié au Japon aussi, le blob, plus par rapport à sa mémoire. Parce qu'en fait, le blob a une mémoire, il a des capacités, une forme d'intelligence. Sauf qu'il n'a pas de cerveau et du coup on cherche à comprendre aussi pareil comment ça se fait, où est-ce qu'il enregistre en fait ses informations, comment il les stocke et tout ça.
Comment ils savent qu'il a une mémoire?
Ils lui ont fait faire des expériences de labyrinthe par exemple. Voilà.
Et il se souvenait.
Et il prend toujours le chemin le plus court.
Dis-toi.
Malin lui.
Ouais. Et pareil, ils lui ont fait faire du coup des expériences dites de réseau.
Qu'est-ce que c'est?
Où le blob. Il doit en fait il est entouré de nourriture dispatchée en fait autour de lui à différentes distances et il doit créer un réseau de chemins avec tous ces petits ces petites cellules qui s'étendent pour créer les chemins les plus courts pour attaquer la nourriture.
D'accord.
Voilà. Et du coup ça fait comme une sorte de réseau routier autour de lui et à chaque fois les blobs créer la meilleure carte possible.
Voilà. Bah, y en a qui et du coup,
ils ont étudié exactement. Voilà, ils ont par exemple au Japon, il avait étudié les cartes de Tokyo pour voir en fait si le blob faisait une meilleure approche avec du coup en définissant chaque flocon d'avoine comme une station et voir si le blob trouvait une meilleure carte routière et à chaque fois c'était mieux que l'être humain.
C'est génial.
Le blob dessinateur de cartes routières.
C'est ça. Donc pareil, il est beaucoup étudié là-bas pour ça.
C'est vraiment trop cool.
Ouais.
Donc pour finir, bah, ce blob, comme je vous disais, il existe en différentes couleurs.
Il y a des... On dirait que tu es en train de nous présenter une collection d'un coup, de mode.
J'ai l'impression d'être dans une réunion Tupperware d'un coup là.
Donc vous pouvez avoir des blobs roses, jaunes, à paillettes. Ça c'est pas vrai. Des blancs, des noirs. Donc il y a à peu près 1000 espèces pour l'instant qui ont été identifiées. Et pareil, ils ont des formes un peu particulières selon les espèces. Voilà, donc il est en fait vraiment étudié depuis les années 70. Et maintenant il est étudié partout dans le monde. Et chaque scientifique recoupe leurs informations pour... En fait, ils étudient chacun un peu des particularités du blob différentes. Et on cherche vraiment à comprendre. En fait, là, on découvre ses capacités, ses facultés, mais on comprend pas comment il fait. Voilà, c'est vraiment une forme d'intelligence qui nous est inconnue pour l'instant. Et du coup, on cherche à comprendre.
Mystère.
Voilà.
Merci beaucoup, Juliette, pour cette chronique mystérieuse scientifique. Je sens que ça va devenir ton truc les rubriques scientifiques.
Ouais, bah, à chaque fois que je fais des recherches, c'est ce qui me passionne.
Ouais. Bon alors, théories les plus folles sur le blob, Sandy ?
Les théories les plus folles sur le blob ?
Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Pourquoi c'est là ?
Qu'est-ce que c'est ? Moi, je dirais que c'est un envoyé de Dieu.
Waouh ! Alors là, ouais,
c'est d'ailleurs, c'est lui qui s'accrochait sur les corps pour les faire danser. Il prenait possession de leurs membres. Voilà. Non, mais c'est adorable comme petite bébête. Et d'ailleurs...
On peut adopter un blob ?
C'est ça.
Mais non.
Vous en avez certainement entendu parler récemment parce qu'il y a eu un appel de laboratoire français pour adopter un blob. Donc ils cherchent plusieurs centaines de volontaires pour l'adopter et faire des expériences sur lui, à la maison.
J'avais vu une vidéo comme ça d'un mec qui avait fait participer du coup à l'opération Adopte ton blob. Et le blob s'était fait la malle.
Effectivement, en fait, si on met le blob dans une boîte sans nourriture, bah, il s'échappe. Hey. Et voilà, il n'est pas content et bah, il cherche à manger. Donc il se glisse et il s'échappe.
J'imagine trop avec son petit baluchon. Ciao les compagnies. Allez, cassos les burritos. Ok, super. Eh bien, je crois qu'on est sur la fin de ce deuxième épisode des Mystères Mystérieux. On va se retrouver d'ici un mois pour le prochain enregistrement. Le premier épisode est déjà en ligne. N'hésitez pas à l'écouter et nous dire ce que vous en pensez, les petites choses à corriger peut-être. Et vos théories les plus folles, c'est surtout ça qui nous intéresse parce qu'on sait très bien qu'on hurle dans des micros et que le son n'est pas génial. Mais on veut savoir ce que vous pensez de ces mystères mystérieux complètement fous. Merci beaucoup, à bientôt, bye.
Au revoir.
Bye.